Bruxelles.
C'est Vincenzo Genovese, journaliste italienne qui suit pour vous les questions européennes.
Et je suis Hermine Doncel. Nous sommes de retour après la pause hivernale pour analyser avec vous l'impact de la guerre en Ukraine, près d'un an depuis son début, sur la politique de défense et de sécurité de l'Union européenne et donc de ses relations avec l'OTAN.
En octobre 2019, le président français Emmanuel Macron déclarait dans une interview à The Economist qu'il assistait à la mort cérébrale de l'OTAN. Selon lui, l'UE était alors au bord d'un précipice et pour être maître de son destin, elle devait se penser plus stratégiquement qu'en puissance géopolitique. Ursula von der Leyen, alors nouvellement nommée présidente de la Commission européenne, avait également en tête une commission géopolitique où les Européens seraient les façonneurs du meilleur ordre mondial. Cependant, trois ans plus tard, ces déclarations semblent appartenir à une autre époque. Il est désormais indéniable que l'une des conséquences de l'invasion russe est le renforcement de l'ancrage européen de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, une union qui ne compterait que sur elle-même, sans les boucliers de l'OTAN, est désormais inenvisageable. La guerre en Ukraine a clairement rebattu l'écart de la politique de sécurité et de défense de l'UE. Cela a conduit à un large soutien en faveur de l'amélioration des capacités de défense du bloc. Qu'en est-il de sa quête d'une soi-disant autonomie stratégique en matière de défense et de sécurité? Je me suis rendu au think tank CEPS pour poser la question à Zachary Paikin, chercheur en politique étrangère de l'UE.
Right, this debate about EU strategic autonomy has been sort of swept under the rug.
Ce débat sur l'autonomie stratégique de l'Union européenne a été, en quelque sorte, balayé sous le tapis à cause de cette guerre. Et il y a bonne raison à cela. De toute évidence, politiquement parlant, ce n'est pas le moment de mettre l'accent sur un concept que certains interprètent comme impliquant une autonomie stratégique vis-à-vis des États-Unis. Et donc, il y a le langage plus nuancé, la souveraineté stratégique européenne, dont on entend beaucoup parler.
Les premiers effets de la guerre, et les plus tangibles, a été la demande d'adhésion à l'OTAN de deux États membres de l'UE, la Finlande et la Suède.
Lorsque ce processus d'élargissement aura abouti, qu'est-ce que cela impliquera pour l'Union européenne, Zachary Paikin?
Once Sweden and Finland join NATO,
dès que la Suède et la Finlande rejoindront l'OTAN, se présentera une situation où 23 des 27 États membres de l'Union européenne seront dans l'OTAN. Et plus de 95% de la population de l'Union européenne sera dans l'OTAN. Les seuls pays qui seront à l'extérieur seront l'Irlande, l'Autriche, Malte et Chypre. Et donc, même faisant partie de l'Union européenne, cela ne signifie plus que vous êtes neutre. Vous pouvez être militairement neutre dans le sens où vous n'êtes pas membre de l'OTAN, mais vous n'êtes certainement pas politiquement neutre parce que vous adhérez à la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne. Et l'Union européenne, bien sûr, comme je l'ai mentionné, s'étend de plus en plus au domaine de la défense.
La large majorité dans l'Union européenne du nombre de membres de l'OTAN combiné au rôle joué par l'Union dans la guerre, suggère qu'il n'y aura fondamentalement plus vraiment de pays neutres en Europe. Cela rappellera une sorte de clivage est-ouest européen provoquant un environnement sécuritaire dangereux sur le continent. Ce nouveau scénario conduirait probablement à une plus grande collaboration entre l'UE et l'organisation de sécurité menée par les États-Unis. Cette nouvelle étape s'est ouverte par la signature d'une nouvelle déclaration conjointe UE-OTAN, la troisième de l'histoire, en janvier 2023. Elle offre leur vision de la manière dont les deux blocs agiront ensemble contre les menaces communes à la sécurité et affirme également leur soutien total aux droits de l'Ukraine à la légitime défense. Selon le texte, l'OTAN et l'UE jouent des rôles complémentaires dans le cadre de l'Europe de la défense. Professeur Paikin, d'après vous cependant, cette complémentarité ne peut être tenue pour acquise?
This recent agreement between the EU and NATO, this declaration, shows the extent to which the...
Ce récent accord entre l'Union européenne et l'OTAN, cette déclaration montre à quel point la question reste en suspens. Parce que dans ce document, d'une part, il est fait référence à l'OTAN comme étant le socle de la défense européenne. Et c'est une affirmation incontestable et sans ambiguïté, couplée à la présence, dans la même affirmation et dans la même clause, du fait qu'un rôle accru de l'Union européenne dans la défense européenne est apprécié ou accueilli avec légèreté. Et donc, cela montre qu'il y a encore une certaine frilosité dans certaines capitales européennes, mais aussi aux États-Unis, sur la crainte d'éventuelles duplications d'efforts. Et donc, ces débats vont se poursuivre pendant un certain temps.
Ces éventuels chevauchements et duplications d'efforts de défense sont en effet débattus dans la relation UE-OTAN et la guerre en Ukraine les a remises à jour. Nous avons donc décidé d'interviewer Fabio Massimo Castaldo, député européen du Parti 5 Stelle italien et membre de la Commission des affaires étrangères et ex-vice-président du Parlement européen jusqu'en janvier 2022. Il estime que la cohabitation peut être fructueuse si les deux organisations s'entiennent à leur domaine de compétences. Que voulez-vous dire par là, signor Castaldo?
L'OTAN devrait continuer à se concentrer davantage sur la défense interrégionale, tandis qu'au contraire, l'Union européenne serait davantage axée sur le développement d'une base industrielle solide, dans le but, bien sûr, de réduire la charge et les coûts de nos investissements dans la défense et pour être, encore une fois, plus efficace. Et de créer davantage de forces armées interopérationnelles capables d'assumer seules la responsabilité de la capacité de l'Union européenne là où elle est nécessaire. Par exemple, dans certaines régions cruciales comme le Sahel ou le Moyen-Orient, qui sont durement touchées et zappent notre capacité et notre sécurité à moyen et court terme. Je pense que s'il y a en plein respect des spécificités de la nature des deux organisations, nous serons en mesure de remplir les objectifs et les intérêts de l'Union européenne et de l'OTAN en même temps.
Même si les intérêts de l'OTAN ne sont pas par défaut également les intérêts de l'UE, l'eurodéputé Castaldo estime que l'Alliance et l'Union européenne pourraient fonctionner main dans la main sur la scène mondiale. Il ajoute toutefois que la relation avec la Turquie, un État membre de l'OTAN dont les ambitions ne sont pas alignées sur celles de l'UE, pourrait mettre à l'épreuve la relation. En effet, la décision historique de la Finlande et de la Suède de demander l'adhésion à l'OTAN a été contrecarrée par la Turquie. En ce qu'Ankara menace de bloquer la candidature de la Suède, à moins que Stockholm ne réponde à une série de ses demandes. Celles-ci vont de l'extradition de personnalités kurdes considérées comme des terroristes par le gouvernement d'Ankara, à la colère du président turc Recep Tayyip Erdogan, après qu'un manifestant d'extrême droite ait incendié une copie du Coran devant l'ambassade de Turquie à Stockholm.
Turkey geopolitically has its own agenda, is not coordinating at all with the rest of the NATO allies.
La Turquie, sur le plan géopolitique, a son propre agenda. Elle ne se coordonne pas du tout avec le reste des alliés de l'OTAN et essaye davantage de se construire une sphère d'influence dans tout le Moyen-Orient par elle-même que de créer et d'établir une coopération fructueuse avec ses alliés. Et maintenant, elle essaie même de faire chanter la Finlande et la Suède, les convainquant de se retirer et de renvoyer de nombreux militants politiques et réfugiés du Kurdistan turc et de les ramener en Turquie, où ils peuvent même subir une peine terrible, éventuellement même la condamnation à mort. Ce n'est pas acceptable. Voir un membre de l'Union européenne faire l'objet d'un chantage de la part d'un soi-disant allié qui joue aussi un rôle très spécifique de déstabilisation.
Pour Castaldo, dans le contexte spécifique de la guerre en Ukraine, l'UE, avec toutes ses contradictions, et la Turquie, semble suivre une stratégie différente. En se faisant passer pour un médiateur dans le conflit, le président Erdogan entretient une relation controversée avec son homologue russe Vladimir Poutine.
Somehow, Erdogan is keeping excellent ties.
Nous avons vu que d'une manière ou d'une autre, Erdogan entretient d'excellentes relations avec Moscou, invitant les oligarques à s'établir en Turquie et essayant de favoriser les investissements russes dans les pays et, en outre, essayant de fournir éventuellement des avantages commerciaux à son propre pays.
Mais l'agression de la Russie remet également vivement en question les aspirations de l'UE à être un pôle dans un monde multipolaire. J'ai posé la question au professeur Peikin, qui est plutôt pessimiste.
Je pense qu'il y a un risque que l'Union européenne, à la suite de toutes ces dynamiques, pas seulement du fait de sa coopération avec l'OTAN, mais certainement d'une coopération plus approfondie avec l'OTAN, il y a un risque que l'Union européenne sorte de cette guerre davantage comme un acteur régional et moins comme un acteur mondial. Et plus on perçoit que l'Union européenne est dépendante de l'OTAN, que l'Union européenne est dépendante des États-Unis, moins l'Union européenne pourra jouer un rôle géopolitique dans l'Indo-Pacifique et peut-être aussi ailleurs.
Il est encore trop tôt pour conclure si une coopération plus étroite entre l'UE et l'OTAN renforcera ou affaiblira l'UE en termes de politique de défense et de sécurité. En fin de compte, les premiers tests de cet éventuel conflit d'intérêts seraient probablement encore la guerre en Ukraine. tant l'Union que l'Alliance ont montré qu'elles ont joué un rôle clé dans la réponse à la guerre de la Russie. Mais il est plus facile de s'entendre sur l'objectif de soutenir l'Ukraine que sur la stratégie optimale des fins de partie pour l'issue de la guerre, qui pourrait être différente pour les intérêts de l'OTAN et de l'UE. Voilà pour aujourd'hui. Je vous donne déjà rendez-vous pour d'autres épisodes sur l'onde de choc que la guerre en Ukraine a eu sur les politiques européennes de sécurité et de défense. Ciao !